20h, 21h. Allô l'imam, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et pour participer à cette émission, vous avez besoin d'un téléphone pour appeler l'imam Abdelali Mamoun dans un instant au 01 53 48 3000. Bonjour, bienvenue, bon ramadan, c'est le sixième jour déjà du mois de ramadan. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi encore une fois d'être avec toi pour un sixième jour, c'est ça t'as dit?
C'est tout, six jours.
Inch'Allah. Ouais. En tout cas, j'ai kiffé l'émission là. Oh, c'était explosif là, qu'est-ce qui est passé dans le plateau Philippe là?
Rien, on vous attendait.
Ah la vache, ben dis donc, ça pétait là. Là, j'ai franchement, c'était impressionnant. Mais c'était pertinent.
C'est l'effet Vanessa. L'effet Vanessa, c'est toujours un petit
moi,
peu
je crois
étonnant.
Que c'est plus l'effet Abdelkarim, Steve Abdelkarim.
Voilà, qui sera avec nous la semaine prochaine. Tiens, Imam Abdelali.
Mais ils ont tous été pertinents, c'est ça.
Ils sont super. Bien. Regardez, le chef voilà nous a préparé des, comment vous appelez ça, des crêpes
barrières
sans farine.
Voilà, ça c'est un... Là, par contre, j'arrive pas à comprendre comment il a fait ça.
Oh, je sais pas, il a mis peut-être.
De la semoule, peut-être.
La semoule fine.
Très fine, ouais.
C'est possible. Semoule, peut-être.
C'est possible.
Et ça, c'est.
C'est le mhajib. Alors, le mhajib, c'est un msemen.
C'est magnifique, ça.
Qui est farci avec des oignons et de tomates.
Bien. Spéciale dédicace à Maya, qui hier nous a préparé de la pastèque. C'était merveilleux, Imam Abdelali. Voilà. Bien. Voilà. 1, 2, 3, 0, 1, 53, 48, 3000. Vous savez, le standard de Beurre FM est à votre destination, donc disposition. Si vous avez une question à poser à l'imam Abdelali, c'est Farid qui est avec nous. Bienvenue, Farid.
Allô?
Oui, Farid.
Oui, bonjour, monsieur l'imam. Bonjour.
Bonjour, salam alaikum.
Salam alaikum. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît, parce que, en fait, j'ai loupé un jour au ramadan, j'avais un problème. Je me demande si je dois le rattraper à la fin du ramadan ou alors...
Ou alors quoi?
Ou alors, je sais pas, moi...
Ou bah forcément, en fait, après le ramadan, tu peux pas rattraper pendant le ramadan, parce oui. que chaque jour du ramadan, tu dois jeûner le ramadan.
Il en manquera un.
Si tu fais la niya de rattraper pendant le ramadan ton jour que t'as pas jeûné, le jour que tu vas faire comment... c'est forcément après le ramadan et c'est forcément après le jour de l'Aïd. On peut pas rattraper quoi que ce soit... Il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd. Ça, c'est important de le préciser. Il faudra attendre le surlendemain. Et on peut jeûner tout de suite après le lendemain de l'Aïd. Hein. Ce n'est pas interdit. Hein.
D'accord. Donc, on m'a dit, si on fait un jour, il fallait que je rattrape 3 jours, ainsi de suite. C'est faux?
Ah non. Si tu n'as pas jeûné un jour, tu ne rattrapes qu'un seul jour parce que tu as d'accord. mangé. Est-ce que tu as consommé des relations intimes? Le jour où tu n'as pas jeûné?
Non.
Hein? Comment?
Non.
Voilà, alors il faut savoir que si c'était le cas, là tu aurais effectivement 60 jours à jeûner en kafara. Là c'est la grosse expiation.
Ah, non, là, c'est
60 jours ou 60
tout gagné.
Repas. Ah ouais, non. Il y a un hadith qui est authentique là-dessus. Je l'ai évoqué hier, je crois. Je l'ai raconté hier, je crois, il me semble. Un compagnon est venu voir le prophète. Il lui a dit, ah, Rasoulallah, voilà, j'ai consommé des relations pendant le jour du ramadan. Et bien, il a dit, tu dois t'acquitter de 60 jours. De jeûne. Il a dit, mais je ne suis pas capable de jeûner 60 jours, je n'ai pas les forces, la force physique pour le faire. Alors il a dit, ouais. Possèdes-tu 60 équivalent de nourrir pour nourrir 60 pauvres? Il a dit, non, je suis très pauvre, ya Rasulallah. Alors il lui dit, as-tu au moins un esclave, quelque chose que tu peux affranchir? Il a dit, non. Bon, ça c'est à l'époque, il y avait encore l'esclavage. Où est-ce qu'on encourageait l'affranchissement? Et ouais. ensuite, il lui dit, non, j'ai rien du tout. Et là, il lui dit, attends, reste là. Il est parti chez lui. Donc le prophète est rentré dans sa maison, il est revenu avec un plateau de dattes, et il a dit, tiens, prends ce plateau et ramène-le aux pauvres, et nourris-en aux pauvres. Il a dit, ya Rasulallah, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. Et là le prophète a souri, il a dit, allez, prends-le et va nourrir ta femme et tes enfants avec. Donc cet homme-là était venu censé payer une faute qu'il avait commise, et il repart avec un cadeau. Donc, c'était, voilà. Mais en tout cas, la règle, elle est là. Le prophète nous le dit clairement, quand quelqu'un jeûne, rompe le jeûne et consomme des relations pendant le ramadan, c'est 60 jours de jeûne à rattraper, plus le jour non jeûné, c'est-à-dire il rattrape son jeûne de jeûne qu'il n'a pas fait, et il rattrape en plus comme expiation, comme punition, on va dire ça comme ça, 60 jours de jeûne.
Oui, mais après le soir, on a le droit d'avoir des relations le soir quand même.
Je vous dis, de l'heure de l'Fajr jusqu'au Maghreb. Hier, on a une d'accord. émission spécialement pour ça, oui, où on a parlé sexologie pendant le ramadan, et on a dit d'accord. que les nuits du ramadan, verset 187, il est permis, bien sûr, d'avoir des relations avec sa femme. et que même la journée, on avait le droit d'avoir des caresses et des bisous. Tout ça, c'est pas interdit pendant les journées du Ramadan. Mais consommer des relations sexuelles, là, c'est fatal. Là, c'est la punition, la grande expiation. 60 jours de jeûne. Donc faites attention, il ne faut pas s'amuser avec ça.
Ah ouais, d'accord. Ok, merci, monsieur l'imam.
Je t'en prie, regarde, Léanc.
Merci.
Merci Farid. Manuel Mariani qui est resté avec nous s'extasie et commente les réponses de l'imam.
Toutes mes excuses aux auditeurs. J'ai dit oulala. Là
là, 60 jours, oui, ça fait.
Je ne savais pas que mon micro était ouvert.
Mais c'est pas grave. Manuel, t'es la bienvenue avec nous sur le plateau.
Bah, merci, c'est gentil, mais bon.
Alors, 01 53 48 3000, Myriam est avec nous. Bienvenue, bon ramadan.
Allô, l'imam.
Bonjour, Myriam.
Première.
Wa alaykoum
salam wa rahmatoullahi wa barakatuh.
Ça, c'est mignon.
Ah, Myriam, tu as quel âge ?
J'ai
9 ans. Masha'Allah. Allah yahfadhak, abinti. Allez, je t'écoute, pose ta question.
En fait, je voudrais
réciter
une sourate.
Allah ibarak. Bah écoute, je crois, Philippe, t'es pas contre. Hein ?
Ah, je suis même pour.
Eh ben, allons, on y va.
Je suis même franchement pour.
Tu commences toujours par Bismillah. Allez, on y va.
Bismillahirrahmanirrahim. Lui, il a fait Quraysh. إلى فيهم نحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أدأمهم من جوع وأمنهم من خوف.
ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك. Superbe, t'as une belle voix en plus. T'as bien récité, t'as pas fait d'erreur, c'est magnifique, magnifique. Rien à dire, Philippe. بارك الله فيك. الله يحفظك أمتك. الله يجعل الذرية صالحة. اللهم أنبتها نباتا حسنا. قولوا آمين كلكم اللي تسمعوني إن شاء الله بال عبر هذه الإذاعة إن شاء الله. أن tous ceux qui nous écoutent dans cette radio dit آمين. الله يحفظها قولوا آمين. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Il y en a bien un là-dedans qui est un dua mustajab quand même.
Merci Myriam. Et tu reviens quand tu veux. À bientôt. Radija est avec nous à Bourges. Bienvenue. Bon Ramadan, Radija.
Allô l'imam.
Allô l'imam, marhaba bik. Je vous écoute, ma sœur. Oh, c'est magnifique, ça, tout le monde. Tout le monde, ça y est, rodé. On a...
Oui.
Je vous écoute.
Voilà, j'ai une question, l'imam, pour vous, voilà. Et voilà, j'ai ma fille, elle a 17 ans.
Oui.
Et elle est interne.
Elle est interne.
Oui, elle est interne.
Dans un internat, tu veux dire,
dans un internat, oui. Et on a fait avant le Ramadan, on a fait deux demandes pour le Ramadan, pour lever le Ramadan. Elle n'était pas acceptée. Ils n'ont pas accepté le.
Elle a quel âge ta fille ?
17 ans.
17 ans.
Ils n'ont pas accepté qu'elle jeûne à l'internat, c'est ça, Radija ?
Pourquoi elle est dans un internat ? Pourquoi elle n'est pas avec ses parents ?
Elle n'est pas avec moi parce que voilà, c'était compliqué, parce que ça fait deux ans qu'elle est ici en France et c'était compliqué pour elle. Et après, elle a choisi pour les études. Mais c'est la dernière année, cette année.
D'accord.
Voilà.
Non, en principe, les enfants doivent vivre avec leurs parents. C'est-à-dire que c'est psychologiquement, c'est pas très bon. En tout cas, khair, inshallah ta'ala. Pour ce qui est du Ramadan, elle fait au mieux. Moi, je peux pas lui dire de ne pas jeûner ou de ne jeûner. J'en sais rien. Je connais pas les règles, la réglementation de son établissement interne. Mais bon, voilà quoi.
Oui. Non, on comprend. Je sais. Voilà, j'étais sûre que ça n'était pas accepté parce que voilà.
Mais il faut elle est musulmane. Il faut bien qu'elle fasse le Ramadan.
Okay.
Comment une musulmane qui grandit dans un internat peut-il vivre sa foi, être éduquée et être imprégnée de sa religion ? C'est ça qui me perturbe dans cette histoire-là.
Oui. Mais moi j'ai une autre question. Imam Dali, quand vous êtes à l'internat, vous voyez, vous êtes à l'internat.
J'ai bien compris, mais
musulman ou pas ?
Pourquoi vous êtes dans l'internat ? C'est ça la question. C'est pourquoi moi je dois penser pas à l'instruction de mes enfants, mais à leur éducation. Le problème, c'est que les parents confondent instruction et éducation. Ils pensent que faire en sorte que mes enfants réussissent dans leurs études et qu'ils aient un niveau de connaissance important, eh bien, c'est ça, éduquer ses enfants. Eh bien, non. Éduquer ses enfants, c'est plein d'autres choses. C'est leur inculquer les valeurs, la morale, le lien avec Dieu, la pudeur, la relation avec le sexe opposé, la relation avec les membres de sa famille, la relation avec les musulmans et puis son entourage, mais aussi son voisinage. Comment voulez-vous qu'elle apprenne tout ça dans un internat ?
Mais Imam Abdelali, il y a des gens qui habitent à la campagne, enfin, ou qui habitent dans des endroits où il n'y a pas de lycée. Donc les enfants sont obligés d'aller à l'internat. Il n'y a pas d'autre choix que d'y aller. Sinon, c'est de faire des trajets d'une heure et demie par jour. Comment vous faites ?
Eh ben, à l'époque, ils faisaient ça à pied. Hein. Ils faisaient même à pied.
Non, mais je ne vous parle pas de l'époque. Ah, je vous parle de 2018.
On est différents des gens de l'époque.
Non.
Voilà, bon, à l'époque, il y avait des écoles dans les campagnes. Philippe, c'était plus le cas.
On peut ne pas être d'accord.
Mais c'est pas ça. Non, mais je
persiste.
Moi, j'ai grandi.
C'est aux parents d'éduquer leurs
enfants. J'ai grandi en Haute-Garonne, dans certains bleds de Haute-Garonne. Il n'y a pas de lycée. Vous êtes obligés d'aller à l'internat. Comment vous faites ?
Écoutez, moi je déménage. Si je ne peux pas éduquer mes enfants là où j'habite, je change d'endroit parce que la priorité dans ma vie, c'est de m'occuper de mes enfants. Dieu va me juger, m'interpeller. Qu'est-ce que tu as fait de tes enfants ? Tu étais raï, tu étais berger et tu avais une bergerie qui s'appelle tes enfants. Qu'en as-tu fait ? Que sont-ils devenus ? Dans cet internat, qu'est-ce qu'on leur apprend ? Moi, je ne suis pas sûr qu'on leur apprenne des bonnes choses. Même au niveau de la nourriture, je ne sais pas comment elle fait. Elle mange quoi ? Elle va manger soit le hellouf, soit le jifa. Voilà.
Non, elle peut.
Soit elle est végétarienne ou comment t'as dit ?
Ah non, on n'a pas dit, c'est vous qui l'avez pensé.
Comment t'as dit ? Vegan. Comment ? Vous dites quoi, madame ?
Elle est végétarienne.
J'ai dit, ma fille, elle mange ni halouf ni jifa dans l'internat.
Oui, mais ça veut dire qu'elle ne mange pas de viande, miskina.
Non, si, elle mange le week-end, elle est végétarienne.
Voilà, que le week-end. Donc
voilà,
ça veut dire,
elle prend à l'internat les bonnes études. Et elle est,
Les bonnes études. Donc c'est ça l'éducation, oui, c'est les bonnes études. Voilà.
Non, de tout.
Elle aura un doctorat, un master, elle aura des grandes études.
Moi je lui souhaite, parce qu'elle est l'école d'ingénieur. Moi j'espère qu'elle sera ingénieur.
Moi je lui souhaite aussi, mais en matière d'éducation à la morale, que les parents sont censés transmettre à les enfants, là je pense qu'il y aura forcément une, je ne suis pas sûr que ça va être fait comme il faut.
Moi, quand j'ai posé ma question, je voudrais savoir est-ce qu'elle peut rattraper ou elle fait. C'est pas pour rentrer dans les détails pour manger et tout, parce qu'elle est dans une bonne établissement à ici. Dans l'internat.
Annecy,
Annecy.
Voilà.
Oui, d'accord.
Et
c'est la Haute-Savoie, ça.
Elle a 17 ans, elle peut y visiter tout.
Inch'Allah, ma soeur, on ne va pas tergiverser des heures. En tout cas, pour votre fille, si elle peut jeûner, elle jeûne. Si elle ne peut pas jeûner, elle ne jeûne pas.
Voilà, merci.
Voilà, mais c'est pas une dérogation que je donne. Hein. C'est pas une dérogation.
Non, mais la question, c'est est-ce qu'elle doit rattraper après ? C'est ça la question.
Est-ce qu'elle doit rattraper quand ? Quand est-ce, puisqu'elle est dans un internat ? Elle va rattraper quand ?
Ce que je
constate, c'est que ta fille, elle peut pratiquer rien dans la religion. Si elle peut même pas jeûner, ça veut dire elle peut même pas prier. Elle peut même pas vivre. Elle peut même pas, c'est-à-dire vivre une spiritualité, parce qu'elle n'a pas de parents pour lui l'encourager, pour lui faire vivre ce climat religieux qui doit être le foyer du musulman. Voilà, moi c'est ça ce que j'appelle éduquer ses enfants. C'est pas s'assurer seulement, j'ai dit bien, s'assurer seulement
qu'elle est une éducation.
Comment?
Elle fait sa prière. Parce qu'elle a 17 ans.
D'accord.
Et juste pour avoir. Voilà. De toute façon, j'ai ma réponse, moi.
Allah ybarak, Allah yisahel alayk, ourti.
Allah
yahfadha, inshallah yahfadha, inshallah, ouj'ala dhurriya salihah.
Inshallah.
On lui souhaite tout le bonheur, on lui souhaite que tout son passage dans l'internat.
C'est Khadija. Laura est avec nous. Bienvenue et bon ramadan, Laura. Laura.
Oui, allô, l'imam.
Allô, salam alaykoum, machallah.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah.
Tout le monde est rodé, là, c'est parfait. Allez-y. Wa rahmatoullah wa barakatuh. Je vous écoute.
J'ai du mal à m'organiser pendant le ramadan. Parce qu'en fait, même les ramadans d'avant. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire qu'après, des fois, on se ramasse et on ne sait pas trop ce qu'il faut faire en priorité.
Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité ? Je ne comprends pas votre question. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose, Philippe.
Y a tellement de choses à faire pendant le mois du ramadan qu'il faut savoir ce qu'on doit faire en priorité.
D'abord, en priorité, c'est de jeûner. Et puis après, de faire ses obligations comme d'habitude. Vous parlez des actes surérogatoires.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, très bonne question. Je trouve que votre question est très pertinente. Moi, je pense que chaque musulman a un tempérament et à une sensibilité à une pratique particulière. Il y en a qui sont sensibles au dhikr, vous savez, l'évocation. eh bien, qu'il fasse la dévocation. Il y en a qui sont sensibles à la méditation, eh bien, qu'il médite la création, ou qu'il médite la mort, ou qu'il médite la fin des temps. Il y en a, mais c'est vrai, il y en a qui sont vraiment très affectés par la méditation. C'est-à-dire qu'ils augmentent leur foi rien qu'en restant assis à méditer, à réfléchir sur le sens de la vie, le sens de la création d'Allah Azza wa Jal, et sur la grandeur de la puissance d'Allah Azza wa Jal à travers cette création. Il y en a, ils adorent Allah Azza wa Jal en multipliant les recherches et les connaissances dans les sciences profanes ou les sciences sacrées, que ce soit les sciences, la biologie, la science de la vie, de la terre, etc., pour pouvoir méditer la puissance d'Allah Azza wa Jal. Il y en a qui sont dans les prières de la nuit, Tarawih et Qiyam al-Layl. Il y en a qui sont dans le Sadaqa, qui font beaucoup d'aumônes. Cherchez-vous, parmi toutes ces adorations, celle au pluriel ou au singulier, qui vous sensibilise le plus, qui vous permet de vous élever mieux et plus vers Allah Azza wa Jal, et qui vous permet, voilà, et c'est celle-ci que vous allez mettre en valeur. C'était le cas des sahaba, radiyallahu anhum, que certains on appelait de manière en surnom le qawwam al-layl, le sajjad, kathir al-sujud, celui-là était celui qui priait beaucoup, celui-là se prosternait beaucoup, celui-là il jeûnait beaucoup, as-sawwam, hada kunqul la kathir al-sadaqa. Chaque compagnon avait quelque chose de spécifique, de particulier qui le marquait dans l'adoration surérogatoire et qui lui permet de s'élever au grade qu'il avait atteint en foi et en élévation spirituelle. Vous comprenez?
Okay,
vous comprenez?
Ouais,
cherchez, faites de tout, touchez à tout, du dhikr, du qiraat Qur'an, de qiyam al-layl, du sadaqa, de tout ça, et regardez si c'est quoi qui vous fait quelque chose.
Moi, j'aime tout, alors comme ça...
Eh ben, alors faites de tout, mélangez. Voilà, l'aïberg. Un peu de dhikr, le dhikr le matin.
Moi, c'est simple.
Voilà, le dhikr le matin après sobh, le Qur'an avant le fajr, c'est bien ça aussi, par contre, de respecter, le qiyam al-layl dans la nuit, le salat al-duha, le matin, c'est bien d'aller s'occuper des nécessiteux, etc., etc., et vous pouvez compléter comme ça ainsi votre journée en mettant en place un tableau de bienfaisance que vous pouvez réaliser. Tout à l'heure... Steve Abdelkarim a évoqué un tableau, Philippe, c'est bien ça, un tableau, il avait dit comment, neuro-stélistique, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Bref, en gros, qu'il fallait programmer un projet ambitieux et finalement de s'attacher qu'à 20%, je crois qu'il évoquait.
Ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est déjà beaucoup.
Vous arrivez à faire 20% de votre ambition, eh bien, c'est déjà une bonne chose.
C'est bien. Merci Laura pour votre appel. Allez, d'autres appels dans un instant. Vous voulez poser des questions à l'imam Abdelali, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Allô l'imam, c'est jusqu'à 21h.
Allô l'imam, reviens dans un instant. Beur FM, 20h, 21h. Allô l'imam. Avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdelali Mamoun répond tous les soirs du Ramadan à vos questions au 01 53 48 3000. Nejma est avec nous. Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan.
Allô l'imam, bon Ramadan à vous tous.
Marhaba Nourtil Kalima, je vous écoute.
J'aime bien son prénom, Salam Nejma.
Alaikum. Nejma, c'est l'étoile.
Star. Oui, c'est ça, oui.
Star.
The
star. The star. The star of the star.
Oui. Je voulais commencer par une phrase.
Nejma Tounoujoum. Oui, comment? Allez-y, voilà. Disiez quoi?
Je voulais juste commencer par du positif. Je voulais remercier l'imam de sa pertinence, de sa franchise, de sa façon de parler. C'est clair. Merci pour tous les ignorants qui vous écoutent. Hein. Ils sont moins bêtes quand ils ont raccroché.
Alhamdoulilah.
Voilà. L'objectif, c'est ça. Ça fait des années, ça fait des décennies que j'entends des imams, mais des comme vous, franchement, ça fait du bien. Voilà. Donc,
merci, ma sœur.
C'est très bien.
C'est votre sœur ou votre cousine?
Je la connais pas.
Ah bon.
Je sais pas qui c'est, Nejma. Non, mais vous savez, voilà. Regardez comment ils sont de mauvaise foi. Regardez, écoutez, Nejma.
Mais
écoutez Philippe là.
Donc c'est Nejma Mamoun, hein, c'est ça, Mamoun, hein, c'est ouais. Ça. C'est...
Non. Je ne connais, ni certainement d'Adam et Ève, mais pas plus.
Allez, on vous a coupé, on vous écoute Nejma.
Oui, puis je serais ni sœur ni cousine, je serais plutôt une tante, mais pas bon.
Vous avez quel âge Nejma?
58.
Allah ybarak. 68, machallah.
Voilà. 58.
Ah, 58.
On a enlevé les taxes.
58, j'ai mon grand frère. J'ai mon grand frère qui a 58 ans. Voilà. Donc, pour être ma grande sœur.
Exactement. Donc, je voulais donc. C'est vraiment super intéressant. Vous atteignez tous les sujets. Vous répondez sans tabou, c'est très bien.
Barak
Moi, j'ai une petite question, parce qu'hier, j'ai loupé, l'intervention d'une personne qui vous parlait de l'hypnose. Donc, effectivement, j'ai compris que c'était pas haram. Et ensuite, vous avez enchaîné sur les associations. Le shirk. Qu'est-ce que le shirk?
L'associationnisme. Le polythéisme.
Oui. Oui, ça, j'avais compris. Mais est-ce que le fait d'aller voir, par exemple, un marabout qui vous fait un talisman, est-ce que c'est, par exemple,
tout à fait. C'est le shirk, okay. bien sûr, puisque c'est un charlatan qui pratique la sorcellerie, qui pratique le charlatanisme et qui vous fait croire qu'il est capable de de rétablir votre situation à travers un bout de papier dans lequel il va gribouiller dessus des trucs, il va plier en mille morceaux de manière à l'emballer et puis il va dire voilà, mettez ça sous l'oreiller ou je sais pas quoi de votre femme ou de votre fils ou je ne sais quoi. C'est du charlatanisme. On est dans la sorcellerie purement et simplement.
Voilà. Même s'ils partent sur des noms de saints envoyés d'Allah.
Ah bon? Est-ce qu'ils ces saints, ils sont morts, tous ces saints? Qu'est-ce qu'il va leur faire, les saints? Oui. Ils sont même pas sûrs de leur sort, ces saints-là. Qu'est-ce qu'ils en savent, eux? Comment ils peuvent sauver qui que ce soit? Ils sont morts. Le prophète, Sayyidina Abu Bakr, après la mort du prophète, a dit « Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat ». Celui qui adore Mohammed, sachez que Mohammed est mort. Et celui qui adore Allah, sachez que Allah est vivant, il ne meurt pas. Le seul qui mérite d'être invoqué et imploré pour avoir de l'aide, c'est Allah Azzawajal, en utilisant le Coran et en utilisant les hadiths, c'est-à-dire les invocations qui sont, prescrites dans les sources de la sunna du prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam. Tout ce qui est au-delà de ça, c'est du charlatanisme. Bien. Voilà, c'est tout.
Donc, ne pas rester dans l'erreur.
Et surtout, surtout ceux qui utilisent la religion en disant Inch'Allah, Inch'Allah, et des Tabarakallah, et des Allah partout, tout ça pour maquiller leur charlatanisme. Attention, attention. Si un raqi vient vous voir, il utilise autre chose. Par exemple, il y en a qui utilisent des cadenas, des objets, tout ça, ou des petits sacs de sel, ou des coquillages, ou des trucs comme ça. Ou les photos, ils utilisent les photos des... Tout ça, c'est du charlatanisme. Il faut faire attention. Tout de suite, vous arrêtez, vous sortez.
J'ai une question, Abdel Ali. Est-ce que la voyance aussi, c'est considéré comme un charlatanisme?
Bien sûr. Qui peut prétendre connaître l'avenir? Toi, tu connais l'avenir, toi?
Non, mais...
Déjà, le voyant, si vraiment il connaît l'avenir, pourquoi il ne me donne pas les 6 numéros de l'auto, je gagne 100 millions d'euros?
Parce que c'est arabe, l'auto. Mais quand
je viens le voir, écoute bien, quand je viens le voir, il me dit comment tu t'appelles. Je dis non, tu devrais le savoir. Si le présent, mon nom qui est présent, tu ne connais même pas, comment tu vas connaître mon avenir? Et tu me demandes mon nom, dis-le-moi toi mon nom, puisque tu es un voyant, tu as la voyance qui connaît l'avenir. Donc l'avenir qui n'existe même pas, tu le connais, et le présent qui existe, tu le connais même pas. Puisque maintenant, je m'appelle Abdel Ali, c'est maintenant, pourquoi tu me demandes mon nom? Tu dois le savoir, c'est plus facile de... Qu'est-ce qui est plus facile, Manu?
C'est logique, le présent ou
l'avenir?
C'est logique.
Donc faut arrêter. Il y a énormément de versets, de hadiths qui parlent de ça, je vais pas m'éterniser là-dessus, parce que c'est un sujet polémique et je pense que j'ai été clair en la matière. En tout cas, chez les savants, il n'y a pas de polémique, ça soit bien clair. Chez les savants, il y a l'unanimité du caractère charlatan et shirk de la pratique de maraboutisme et autres.
Voilà, Nejma, merci beaucoup pour votre appel. Rabia est avec nous.
Par contre,
nous.
Il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'elle va vous dépouiller le portefeuille.
Le portefeuille,
il va être allégé, celui-là, ça c'est sûr. Et le compte en banque aussi.
On va peut-être pas perdre sa maladie, mais on va perdre son argent.
Ça, par contre, c'est sûr. C'est sûr.
Alors, Rabia est avec nous. Bienvenue. Bon ramadan, Rabia.
Allô, l'imam, et bon ramadan à tous les musulmans. Je voulais vous poser deux questions. Il y a plusieurs avis. Pour les nafilas qu'on fait, par exemple, si je suis dehors et que je suis arrivée, que la dhor est passée et je voulais faire le nafila, est-ce que c'est trop tard?
Alors, le dhor, il est passé, d'accord?
Oui, ou je suis à la maison et je n'ai pas fait attention.
Vous avez fait la prière de dhor?
Oui.
Vous l'avez faite et vous voulez des prières surérogatoires en plus, c'est ça?
Oui, nafila. Mais je voulais savoir.
Pour que les auditeurs comprennent, la nafila, ça veut dire une prière surérogatoire que l'on fait après une prière obligatoire.
Pas peur, par exemple, l'adhan, j'ai pas le droit de la faire, la nafila, ou je peux la faire quand même avant?
L'adhan, c'est-à-dire?
Par exemple, au moment de l'adhan de dhuhr et que je n'ai pas fait la nafila.
Et la nafila qui vient après l'adhan ou avant l'adhan? Alors, attendez, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Alors, pour que les auditeurs comprennent, nous avons ce qu'on appelle des nawafil dans la journée du musulman, et même la nuit. Hein, ce sont toutes ces prières qui ne sont pas des prières obligatoires. Il y a des moments où est-ce qu'il est interdit de faire des prières surérogatoires, comme après l'Asr, avant le Maghreb. Hein, cette période-là est proscrite à prier, mais on peut toujours lire le Coran, faire du dhikr, faire d'autres choses. Il y a aussi après au moment du shuruq, le moment du shuruq, c'est le moment où le soleil se lève le matin, il est interdit de prier. Le shuruq, ce n'est pas l'heure d'une prière, c'est l'heure de la fin de la prière de subh ou de l'fajr,
qu'on appelle ça, subh. C'est que par exemple
maintenant si vous êtes en train de vous avez fait vos prières obligatoires et que vous êtes en train de vous déplacer en bus ou n'importe où, et que vous avez envie de faire des prières surérogatoires, vous pouvez les faire, même assises, sans gêner personne.
Moi, j'étais à la maison, j'étais quelqu'un de la famille.
À la maison, à ce moment-là, vous pouvez faire soit assise, soit debout.
Je voulais faire la nafila, elle m'a dit non, il est trop tard, il y a l'adhan de dhor, tu ne peux pas la faire.
Alors, c'est après dhor ou là avant dhor? Je n'ai pas compris.
Il y avait adhan déjà.
Il avait adhan, au contraire, là, il faut faire 4 rak'at, c'est bien. Après le adhan de dhor.
Elle m'a dit non, il faut pas.
Écoutez, madame, écoutez-moi ce que je vous dis. Moi, je vous parle des rawatib. Ar-rawatib qui sont recommandés par le prophète, alayhi salatu wassalam.
C'est
4 rak'at avant dhor et 4 rak'at après dhor.
Est-ce que ça compense?
Mais ce n'est pas obligatoire. On parle dans le surérogatoire, dans le facultatif.
Oui, et est-ce que ça a compensé les prières d'avant qu'on n'a pas fait
Oui, bien sûr. Bien sûr, le jour de la résurrection, la première.
Prières, alors.
Non, écoutez, laissez-moi répondre au moins. Le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal, la première des choses qu'il va nous interroger, c'est la prière.
Oui. Hein?
Et il va voir, est-ce que ta comptabilité de prière, elle est complète ou pas? Si par exemple, est-ce que je dois, par exemple, 60 années de prière? Est-ce que j'ai bien 60 années? Si dans ces 60 années, il me manque un an, il me manque 6 mois, il me manque 3 mois, eh bien, Allah Azza wa Jal va piocher dans les...
Ah oui, il va piocher, oui. Allô?
Piocher dans les prières sur...
Oui, il va piocher, ça y est.
De mes prières, à ce moment-là, je passe à autre chose. Allah Azza wa Jal me dit que tout ce qui vient après est plus facile.
Hein? Ah d'accord.
Voilà, tout ce qui suit derrière la prière, Allah Azza wa Jal. Mais la première des choses sur quoi on sera jugé, c'est la prière. Bon, le prophète dit Ida saluha, saluha al-amalu kullu, wa ida fasada, fasada al-amalu kullu.
D'accord. Et la deuxième question, c'est pour ma mère qui est décédée, la Rama. Et ça fait plusieurs fois que je la vois en rêve. Alors je voulais savoir si je peux faire une sadaqa ou pas.
Si vous voulez, vous pouvez faire une sadaqa pour votre mère. Est-ce qu'elle a fait le hajj, votre mère?
Ma mère, elle a fait la hajj, ouais.
Elle a fait le hajj, Allah ybarak, donc ça veut dire Mashallah hajja. Donc, elle a ses 5 piliers d'islam. Vous voulez continuer à faire du bien pour elle, et du birr, ce qu'on appelle manifester de la bonté pieuse, qui est quelque chose qu'on peut faire même après la mort de ses parents, en faisant des sadaqat avec la niya de la faire pour elle, et même pour plusieurs autres personnes, par exemple pour votre père, pour une personne décédée. Vous pouvez faire des sadaqat. Allez, ou même des jeunes surérogatoires. Voilà. Du dhikr, tout acte de piété qui permet de vous rapprocher de Dieu peut être légué ou plutôt offert en offrande à un défunt, pour un défunt.
Je vous rappelle que l'imam Abdelali Mamoun fait tous les soirs l'Aden en direct. Donc ce soir, c'est à 21h38 si vous évitez Paris. Merci Rabia pour votre appel. On prendra d'autres appels dans un instant. Si vous voulez appeler l'imam Abdelali, vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000 jusqu'à 21h.
Allô l'imam, reviens dans un instant. Une question à poser à l'imam, 01 53 48 3000.
Et Nasser a une question. Bienvenue, bon ramadan, Nasser.
Allô, l'imam. Oui, j'ai une question, mais je crains qu'on voulait déjà poser plusieurs fois cette question.
Alors, laisse-moi dire au moins wa alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. J'écoute ta question, vas-y.
Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Excusez-moi, je
m'en prie. Pas de problème, non, c'est très bien, c'est très bien.
Vas-y. À propos de l'IMSEC, j'ai du mal à comprendre ce que c'est, quoi.
La notion d'IMSEC.
Alors, voilà, je vais vous expliquer. Laissez-moi répondre, je vais vous expliquer. Il existe un avis religieux, notamment c'est l'école malikite, qui interprète un hadith du prophète, notamment celui de Aïcha, qu'on a interrogé en lui disant combien de temps se passait entre le moment où est-ce que le prophète arrêtait de manger et le adhan. Entre le moment où il arrête de manger et le adhan. Elle a répondu, le temps de lire 50 versets du Coran. Le temps de réciter l'équivalent de 50 versets. C'est-à-dire à peu près un petit quart d'heure. D'accord ? Tu es avec moi ?
Ouais,
donc
ouais,
eux, ils en ont conclu une règle que il est recommandé d'arrêter environ l'équivalent de 50 versets à réciter avant le adhan, et c'est ce qu'on appelle l'imsak. Sauf que dans le Coran, il est dit quoi ? Il est dit clairement et avec explicité et explicitement qu'il est dit quoi ? Fakulu washrabu, mangez et buvez. Quoi ? Jusqu'à quoi ? Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. C'est-à-dire tu peux manger jusqu'au fajr et non pas jusqu'au imsak. Donc si tu manges jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à que tu vois dans ton calendrier, il y a marqué, par exemple, je sais pas moi, 4h14, ben tu manges jusqu'à 4h14, pas jusqu'à 4h13, mais jusqu'à 4h14, tu la comptes, cette minute-là, tu manges, et voilà. Et tu termines ta dernière bouchée, et tu manges, et voilà. Et si tu finis tu débutes ta journée de ramadan, de jeûne. D'accord ?
D'accord.
Donc voilà, ouais. Ça c'est la majorité des savants, que l'imsak finalement, ça c'est une invention qui est basée sur une interprétation qui peut être juste ou pas juste, qui émane de notre mère, la mère des croyants. Hein. Je signale quand même que le prophète l'appelait la roussette qui connaît la moitié de la religion. Khudu shatra dinikum an hadhihi al-humayra, disait le prophète alayhi salatu wasalam au sujet de Aïcha. Donc on ne peut pas dénigrer au moins Aïcha, radiallahu anha, bien sûr, mais là il semblerait qu'elle a peut-être donné un avis sur un jour où le prophète a, hier par exemple, le prophète, entre le moment, c'est elle qui parle, hein, hier entre le moment où il a terminé de manger l'adhan, il y avait l'équivalent de 50 versets. Mais est-ce qu'il faisait ça tout le temps et tous les jours ? Le hadith ne dit pas ça, il ne le précise pas. Et d'en faire une généralité alors qu'il s'agissait peut-être d'un cas au moment, parce qu'à l'époque du prophète, il n'y avait pas ni calendrier, il n'y avait rien. Donc il s'était à peu près au pif, hein, l'adhan c'était approximatif. Hein. Donc à partir de là, les gens faisaient les choses, ils s'arrêtaient un petit peu avant par précaution, parce que bon, ils ne savaient pas exactement à peu près à quel moment il allait avoir l'adhan, ils n'avaient pas d'horloge, rien du tout. C'était ça arrivé, voilà, spontanément, et puis dès qu'ils voyaient l'aube arriver, ben, ils arrêtaient de manger. D'accord ? Est-ce que je suis clair ?
D'accord, ben merci pour l'éclaircissement.
Donc, en résumé, il n'y a pas de imsak, il n'y a que le fajr pour débuter le jeûne, d'accord ? On mange jusqu'au fajr, voilà le résumé de ma réponse.
Merci Nasser pour votre question.
Merci.
À bientôt. Jalil est avec nous, bienvenue, bon ramadan Jalil.
Allô l'imam.
Allô, salam alaikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bon ramadan à tout le monde. Bon ramadan à tous les auditeurs de Beurre FM. J'aurais souhaité commencer en vous remerciant par rapport à tous les efforts que vous faites et l'atmosphère que vous faites régner sur les ondes de Beurre FM.
Bah, c'est gentil, Khouya Al-Karim. Allah yahfadhak.
Et puis, par la suite, j'aurais, si vous voulez, deux questions, mais c'est un peu aussi une critique. Et j'espère que vous acceptez les critiques constructives.
Avec plaisir, mais est-ce qu'il y a du bruit derrière toi, là ? C'est qui qu'on entend ? Ou bien c'est notre...
C'est Mehdi qui parle.
Ah, c'est Mehdi, d'accord.
Mon fils, est-ce que t'es mieux maintenant ?
Allons-y, alors. Qu'est-ce que vous dites ? J'ai pas entendu.
J'ai enlevé mon fils, est-ce que c'est mieux maintenant ?
C'est mieux.
Ah ouais, ben normalement, c'est dès le début qu'il fallait l'enlever. Hein. Mais bon, c'est pas...
Ah, désolé.
Non, on critique, désolé. Nous aussi on critique. On critique. Mais c'est une critique contre-constructive.
Ok.
On plaisante, on plaisante. Écoutez, vas-y, regarde.
J'ai une question qui est... Bon, j'entends hein, les gens qui posent des questions très pratiques des choses qui sont liées à la religion. Moi, j'aimerais poser des questions un peu plus conceptuelles, on va dire. Mm-hmm. Et la première, elle concerne en fait le rôle de l'imam en islam. Et donc, la première critique pour moi, c'est que le rôle de l'imam, tel que c'est décrit, c'est la personne qui mène une prière à la mosquée. Et on se rend compte aujourd'hui que l'imam, le rôle de l'imam est beaucoup plus étendu que ça.
Alors non, d'accord. Je peux t'arrêter tout de suite. À l'époque déjà des califes.
Alors, j'ai pas fini.
Mais à l'époque des califes, l'imam c'était le calife. On l'appelait le imam. Par exemple, l'imam Ali radiallahu anhu, et on l'appelait l'imam. Et pourtant, c'était pas l'imam de la mosquée, c'était le calife. Le gouverneur, celui le dirigeant, on appelait l'imam. L'imam est une expression qui peut avoir beaucoup de sens, mais qui a une définition étymologique qui est c'est celui qui est devant, qui est suivi et que l'on écoute et qui est, voilà, celui qui donne, qui guide son troupeau, un peu comme le berger. Voilà, comme le pasteur chez les chrétiens protestants, on dit le pasteur.
Alors, pour moi, il n'y a pas d'hiérarchie dans la religion musulmane.
Il
n'y
a pas d'hiérarchie. On parle de fonction. On ne parle pas d'hiérarchie. On parle de fonction.
Oui, voilà. Quand on dit l'imam, c'est la personne qu'on écoute. Par rapport à quoi on l'écoute, justement, la question. Pour moi, on peut écouter un imam ou un théologien par rapport à ses connaissances. Donc, des connaissances qu'il va rapporter aux personnes qui viennent le voir pour poser des questions. Par exemple, si je pose une question pratique, l'imam va me dire, écoutez, dans la tradition musulmane, voilà comment cette chose-là
est ce sont ses connaissances. Non, Akhil Karim, tu as raison. Juste, je finis.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent comme ça. Donc, j'aimerais aussi aller au bout de ma pensée. Et donc, pour dire que donc le rôle de l'imam ou du théologien, c'est de rapporter les connaissances. Sachant que lui, il a étudié, d'accord, la théologie. Et donc, que derrière, il peut dire, l'imam malikite a dit ceci, les hanafites ont dit cela, les hanbalites ont dit cela. Et pour votre question, d'ailleurs, certains le font également, qui disent, donc choisissez le meilleur avis selon vous, selon votre logique, d'accord ? Vous suivez cet avis-là. Mais pour moi, l'imam n'a pas à dicter ce que doit faire la personne et n'a pas non plus à avoir un rôle intrusif par rapport à la vie des gens. Par exemple, tout à l'heure, j'entendais la personne qui parlait de sa fille qui était en internat, d'accord ? Et vous avez, pour moi, dépassé votre rôle de l'imam parce que vous avez jugé le fait que cette personne-là ait mis sa fille en internat. Et vous avez dit, l'éducation, ce n'est pas simplement l'instruction, mais c'est aussi la religion et autres. J'ai envie de vous dire que l'éducation, c'est des valeurs universelles qu'on retrouve, alhamdoulilah, dans notre religion, mais qu'on retrouve aussi dans les sociétés qui sont civilisées comme Al-Madina. Al-Madina, c'est Al-Madina que a fondé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de civilisation, et donc on va retrouver des valeurs universelles. Et elle raille min la religion, et aussi d'atteindre les valeurs universelles, le comportemental, etc., etc. Donc, si cette maman a jugé primordial d'envoyer sa fille en internat pour réussir sa vie, d'ailleurs, dans notre religion, le savoir, l'acquisition du savoir est un élément fondamental, mais les gens ont tendance à croire que la religion, c'est juste la pratique, comment prier, comment jeûner, etc. D'accord ? Ils réduisent notre religion à cela. Moi, j'estime que vous avez dépassé votre rôle de l'imam. Donc, je dis cela, c'est mon avis. Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui le pensent. D'accord ? Et je vous remercie de m'écouter et de m'avoir laissé aller jusqu'au bout. Et la deuxième question, c'était par rapport à un hadith que vous avez cité.
Alors, la première, ce n'était pas une question.
Il n'y avait pas de question, c'est simplement là des critiques.
J'avais dit que c'était une remarque constructive et que j'aurais souhaité...
Mais vous avez dit une deuxième question, je n'ai pas entendu de première question, qu'il y ait une deuxième question.
La deuxième question. Donc moi, je suis un citoyen français d'origine maghrébine. Mm-hmm. Je m'intéresse pas mal à ma religion, mais je n'ai pas fait d'études religieuses, d'accord ? Donc, vous avez cité hier dans une émission qui était très passionnante sur la sexologie, le rapport, est-ce que Ramadan est un tue-l'amour ? Vous avez cité un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, dans le sens, hein, parce que j'ai pas les mots exacts, si on désire quelque chose chez une femme qui n'est pas notre femme, notre épouse, qu'on se tourne vers notre épouse pour... on va dire subvenir à notre envie.
C'est-à-dire pour apaiser notre désir de rapport intime, puisque voilà. nous avons été la personne a été on va dire excitée parce qu'elle a vu peut-être de manière sans s'en rendre compte est tombée sur quelque chose et qui effectivement a provoqué chez elle quelque chose qui pourrait l'exciter. Eh bien le prophète dit qu'elle est invitée à assouvir cette pulsion en ayant des rapports avec sa propre femme. Bien sûr, avec la réciprocité qu'exige la morale et la morale conjugale, bien sûr.
Alors, mon interpellation par rapport à ce sujet-là, mais c'est plus un étonnement, et j'appelle à votre bon sens et à votre logique et à votre connaissance pour aussi être autocritique et être critique par rapport à des choses qu'on dit Et peut-être que derrière, on n'a pas assez réfléchi à ce qu'on dit. Et pour moi, l'image de la religion, et notamment la religion musulmane, est très importante, parce qu'il y a des gens qui écoutent Beur FM...
Vas-y, évite-nous les intros.
La question que je vous pose, comment pouvez-vous dire que le prophète a dit une chose pareille quand Dieu, dans le Coran, nous dit
Je vais te répondre. Je peux te répondre. Non, mais le problème, c'est que toi, tu fais des remarques. J'ai même pas le droit de répondre à aucune de tes remarques.
Je vais vous laisser répondre parce que ma remarque, je veux juste qu'elle est hyper importante.
Mais allez. Je vais te répondre tout de suite. Le verset coranique, baissez certains de vos regards, certains. C'est pas baisser tous vos regards, sinon je vais me promener dans la rue avec les yeux fermés. Je peux pas fermer mes yeux dans la rue. Je suis obligé de voir à un moment donné des choses. Voilà. Et parfois des choses qui peuvent m'exciter chez une femme de manière inopinée. Je vois une femme dans la rue qui est à moitié déshabillée. Ça peut effectivement provoquer chez moi une excitation parce que je suis un homme.
Je suis n'importe qui. D'accord. C'est comme il y a aussi un autre hadith qui se rapporte à celui-ci, qui a le même sens, qui dit que le prophète a vu une femme quand il était avec ses compagnons, et il a eu une excitation, il est rentré chez lui pour consommer, comme vous l'avez dit hier, avec, je crois, son épouse Maryam.
D'accord.
Son épouse Zainab. Il y a aussi un hadith qui dit ça aussi.
Que le prophète, il a fait ça.
Oui.
Moi, je ne connais pas ça.
Ok.
Donc, je ne connais pas ce hadith.
Pour moi, je vous laisserai peut-être faire vos recherches et revenir peut-être dans les émissions qui viennent pour nous expliquer ce hadith-là. Ce que je veux dire par là, et pour résumer, je veux dire par là que parfois, on rapporte des choses sur le prophète qui nuisent à l'image du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en premier lieu, mais aussi à notre religion. Et qu'il faudrait apporter une critique.
Mais en quoi ça nuit au prophète, alayhi salatu wassalam? En quoi, Khouya Karim, en quoi ça nuit au prophète, alayhi salatu wassalam, d'inviter les hommes à consommer des relations licites avec leurs épouses? Il est où le problème? J'ai pas dit lui on n'a jamais dit qu'il fallait qu'il lui saute dessus dès qu'il rentre à la maison. On a bien précisé qu'il y avait des messages de préliminaires, etc., et que les choses devaient se faire avec des câlins.
Je suis en train de parler du fait que dans le Coran, Dieu dit du prophète que c'est Khulqul Islam. Ça veut dire que
Khulqul
Quran. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran incarné par rapport à ses comportements. On est bien d'accord. Que Dieu nous dit, retour min absarekum.
Min.
Donc, comment le prophète peut suivre la parole de Dieu? Comment il peut être le Coran lui-même et derrière
oui.
Dire qu'on peut dire aux musulmans, puisqu'il est en train de leur renseigner à ses compagnons, d'un côté il leur dit, retour min absarekum, et d'un autre côté il leur dit, si une femme passe et vous excite, donc allez voir vos femmes pour consommer avec elles.
Mais il n'est pas en train d'inviter les gens à regarder. Il est en train de dire que si vous avez vu inopinément, sans involontairement, quelque chose dans la rue qui peut vous exciter, eh bien à ce moment-là, à soulager votre envie en ayant des relations avec votre femme, qui est ce qu'on appelle une forme de ouija, de protection dans ses rapports qu'il a avec le sexe opposé, et c'est pour ça qu'on se marie, Khel Karim. C'est une des raisons, une des finalités du mariage, c'est aussi d'assouvir ses besoins intimes avec sa femme.
Jalil, on va vous inviter dans Ramadan & Co. Je pense que vous avez tout à fait le niveau et vous avez la niaque et la pêche pour participer à l'émission.
Mais j'ai beaucoup à dire aux frères, mais j'ai pas eu le temps de.
Mais on peut pas parce que l'émission arrive à sa fin et que dans un instant nous allons retrouver beauté et sagesse de la voix prophétique. Et c'est la chronique d'Ismaël Mounir. On vous retrouve dans un instant.
Retrouvez Allô l'Imam tous les jours de 20h à 21h sur Beur FM.
Sur Beur.